C'est parti.
Bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, notre passage clé sera très court, mais très intense. Si vous voulez le prendre avec moi, c'est dans Luc au chapitre 6, le verset 46. Et voici ce que Jésus-Christ nous dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Le décor est planté. Et le sujet de notre propos de ce matin, ça sera l'évangile selon les saints égocentriques. Mon père me dit souvent, une exhortation ça doit être encourageant, mais je pars du principe que pour avancer vers le Seigneur, vers notre Dieu, il faut que nous puissions nous remettre en question. Et ça passe par des moments de claque spirituelle. Et ce verset 46 du chapitre 6 de Luc en est une. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? On va essayer de voir ça ce matin. Et pour commencer, j'aimerais savoir, dans l'assistance, qui est-ce qui a étudié un petit peu l'espagnol en LV2, par exemple ? Levez la main, simplement. Ah, il y en a quand même pas mal, l'espagnol. Bon, la question est très simple. Je pense que même ceux qui n'ont pas fait espagnol vont pouvoir répondre à cette question. Vous savez comment on dit « monsieur » en espagnol ?
Señor.
Señor. Et en espagnol, on rencontre finalement un problème sémantique avec ce mot-là, qui est assez intéressant pour nous. Vous savez également comment on dit le mot « seigneur » en espagnol ? Señor. C'est la même chose. « Seigneur » se dit « señor ». C'est le même mot que l'on utilise pour « monsieur ». On dit « señor Alvarez ». Señor Garcia, Señor Guillot, Señor Jesús, Jésus. C'est comme si en français on disait Monsieur Dupont, Monsieur Martin, Monsieur Guillot, Monsieur Jésus. Et il en résulte qu'en espagnol, le concept de Seigneur a un peu perdu de sa valeur. C'est un peu perdu de sa force. Dire que Jésus est Seigneur, eh bien, ça ne veut plus dire grand-chose en espagnol finalement. Et avouons-le, que nous ayons le problème dans notre langue maternelle ou pas, eh bien, nous avons un peu perdu le sens du mot « Seigneur » et bien souvent, on appelle notre Seigneur « Monsieur Jésus ». J'aimerais qu'on puisse réfléchir à ça ce matin, sur le mot « Seigneur ». Pourquoi m'appelez-vous « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis ? Seigneur ne signifie plus aujourd'hui ce que cela signifiait au temps de Jésus. Vous savez, à l'époque, quand on disait Seigneur, eh bien, cette appellation était synonyme d'autorité suprême, en fait, de celui qui était au commencement, celui qui était le premier, celui qui était au-dessus de tous et de tout, le propriétaire de la création. C'est ça que ça veut dire Seigneur. Et quand on lit l'Évangile qui est dans notre Bible, eh bien, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Il présente Jésus comme roi, comme seigneur, comme autorité suprême. Et si vous lisez les évangiles, eh bien, Jésus est au centre de tout. Et je dirais même plus, si vous lisez la Bible, Jésus est au centre de tout. Il est au centre de toute chose. L'évangile du royaume, celui que nous avons dans notre Bible, est un évangile centré sur Christ. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, je vais vous le faire remarquer, au cours des derniers siècles et peut-être même des dernières années, on nous a fait entendre un autre évangile. Un évangile humain, un évangile qui est centré sur l'homme. Et cet évangile, c'est un évangile de l'offre irrésistible, l'évangile de l'occasion à ne pas manquer, l'évangile de l'affaire en or. Et on peut bien souvent entendre... Vous, si vous acceptez Jésus, et puis, etc. Et on voit, même sans aller plus loin que ça, qu'on a déjà un problème là-dessus. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui nous accepte, et non l'inverse. Mais non, nous, on a mis l'homme en premier. On a mis l'homme à la place de Jésus, et c'est donc l'homme qui prime maintenant sur Monsieur Jésus. Nous disons, le pauvre monsieur Jésus, regarde, il est en train de frapper à la porte de ton royal cœur, majesté. S'il vous plaît, votre grâce, ouvrez la porte à ce pauvre bonhomme. Ne le voyez-vous pas là dehors, dans le froid et la neige? Pauvre monsieur Jésus, par pitié, ouvrez-lui la porte, votre Altesse. Et dès lors, il n'est pas étonnant qu'on pense faire une fleur, on pense faire une grande faveur à monsieur Jésus en devenant chrétien. Il n'est pas non plus étonnant de penser que notre royale personne fasse une grande faveur à monsieur Jésus en venant le mardi soir à l'église ou en débarrassant la table. On se trompe complètement de perspective. Alors, on dit également aux gens, si vous acceptez Jésus, on a vu que c'était déjà un problème, passons sur cela, si vous acceptez Jésus, vous aurez la joie, vous aurez la paix, vous aurez la santé, la prospérité. Si vous donnez 10 euros à Jésus, il vous en redonnera 20. Alors, je caricature, mais c'est un peu ça, des fois, qu'on dit. Nous ne cessons de faire appel aux intérêts de l'homme. Jésus est le sauveur, le médecin, le roi, mais qui vient pour moi. Moi, voilà le centre de notre évangile. Voilà le centre de l'évangile des saints égocentriques. Nous avions l'évangile selon saint Matthieu, saint Luc, saint Marc, saint Jean, et maintenant nous avons l'évangile selon les saints égocentriques. Nos réunions sont centrées sur l'homme jusque dans la disposition de la salle. On va mettre les bancs ou les chaises comme ceci, la chair comme ceci, comme pour que tout le monde voit bien celui qui parle. Et puis, moi, je vais me mettre près du radiateur, et moi, près de la porte, comme ça, si mon téléphone sonne, eh bien, je pourrai y répondre. Tout pointe vers l'homme. Et même, là, je fais mon mea culpa aussi, lorsqu'on établit l'ordre du culte, on ne pense pas à Dieu, mais plutôt à l'auditoire. Moi, je me dis, premier cantique qu'on va chanter, ça sera celui-là, on fera lever tout le monde, puis pour le deuxième, on va les faire asseoir parce qu'ils sont un petit peu fatigués. Puis pour changer, on prendra un cantique que l'on n'a pas chanté depuis très longtemps. Et puis, on prévoira quelque chose d'autre. Et puis, il faut que le tout tienne en une heure pour que les gens ne soient pas trop lassés. Où est Jésus? Où est le Seigneur là-dedans? Nos prières sont centrées sur l'homme. Seigneur, bénis ma maison, bénis ma femme, bénis mon chat, bénis mon chien, mon hamster, ce que vous voulez. Pour la gloire de Jésus, amen. Mais cette prière n'est pas du tout pour la gloire de Jésus. Elle est pour nous. Et ce n'est pas une mauvaise prière. Mais on emploie des mots justes, mais notre état d'esprit n'est pas juste. Nous nous leurrons nous-mêmes. Et on a l'impression que notre évangile ressemble à la lampe d'Aladin. Nous pensons qu'il suffit de frotter pour recevoir tout ce que nous désirons. Qui s'étonnera alors que Karl Marx ait appelé la religion l'opium du peuple? Mais notre Seigneur n'est pas une drogue. Jésus-Christ n'est pas une drogue. Il n'est pas le génie d'Aladin non plus. Il est le Seigneur. Il nous faut venir à Jésus, nous donner à lui et satisfaire à ses exigences quand il parle en tant que Seigneur et lui répondre « Me voici pour te servir, Seigneur ». Voilà ce que nous devons faire. On va prendre un deuxième passage qui se situe au chapitre 4 des Actes des Apôtres. Et on va se mettre un petit peu en situation. Imaginons que notre conseil d'église ici à Lille soit persécuté par la police et par les grands hommes politiques de la région lilloise, Martine Aubry et tout ce qui s'ensuit. Donc peut-être que mon père, Papy Hubert, Pierre, Richard sont persécutés par ces gens-là. Comme le furent les apôtres, d'ailleurs, au chapitre 4 des Actes des Apôtres, qui étaient persécutés par la police de l'époque et les souverains sacrificateurs. Et imaginons-nous, avec notre conseil d'église, qu'est-ce qu'on aurait probablement prié? Peut-être cette prière-là. « Ô Père, aie pitié de nous, viens à notre secours, Seigneur. Aie pitié de Pierre, de Hubert, de Richard et de Pierre-André-Jevski. Ne permets pas que les soldats ou les policiers leur fassent du mal. » Veuille nous donner un moyen de sortir de cette situation. Ne permets pas que nous souffrions. Regarde ce qu'ils nous font. Ô Seigneur, arrête-les et fais qu'il ne nous cause aucun tort. Voilà la prière qu'on pourrait peut-être faire, et ce n'est pas une mauvaise prière. Mais notez le nombre de fois où dans cette prière, nous avons prié nous, nous avons prié je, nous avons prié moi. Eh bien, quelle leçon de lire la prière que les disciples de l'époque ont faite au chapitre 4 des Apôtres pour une situation identique. Les versets 24 à 31, on y voit une prière tout autre. Et remarquez dans cette prière combien de fois les apôtres disent toi ou ton. Versets 24 à 31. Et l'ayant entendu, ils élevèrent d'un commun accord leur voix à Dieu et dirent au souverain, toi tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont, qui a dit par la bouche de David, ton serviteur, pourquoi se sont déchaînées les nations et les peuples ont-ils projeté des choses vaines? Les rois de la terre se sont trouvés là et les chefs se sont réunis ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Car en effet, dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, se sont assemblés et Hérode et Ponce Pilate avec les nations et les peuples d'Israël pour faire toutes les choses que ta main et ton conseil avaient à l'avance déterminé devoir être faites. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec toute hardiesse, en étendant la main pour guérir et pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et comme ils faisaient leur supplication, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Au verset 31, comment en serait-il autrement après une telle prière? Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Par la prière centrée sur Dieu, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Quelle leçon pour nous. Alors parfois, on est un peu comme ces gens du Moyen-Âge qui pensaient que la Terre tournait autour du Soleil et qui se plantaient complètement. Et ils se trompaient, mais nous aussi, on se trompe. Nous pensons être le centre de l'univers et que Dieu et Jésus-Christ, et puis les anges, tournent autour de nous. Le ciel est pour nous, tout ce qui existe est pour notre bien-être. Nous pensons être le centre de l'histoire cosmique ou le premier rôle du film de l'histoire du monde. Et on se trompe. On se trompe. C'est Dieu qui est le centre. C'est Jésus-Christ, le Seigneur. Il faut que nous changions notre centre de gravité. C'est lui le soleil et c'est nous qui lui tournons autour. C'est lui le premier rôle du film et nous n'en sommes qu'un figurant. Alors vous savez, il y a beaucoup de films qui racontent l'histoire d'un homme souvent insignifiant au début, tout petit, humble, qui n'a pas grand-chose pour lui, qui part de rien et qui, à force de péripéties, à force de courage, à force de valeur, d'honneur et d'amour, se trouve dans la situation où son heure est venue. C'est par exemple l'orphelin qui, apprenant à jouer du violon, va ensuite devoir faire un récital devant une salle complète, une salle bondée. Ou bien un sportif dans un stade bondé de monde, ou un guerrier sur un champ de bataille, ou quelqu'un qui est bègue et qui doit prononcer un discours devant des millions de gens. Et il est là, son moment est là, et là il fait quelque chose d'incroyable. Il fait quelque chose que personne n'attend, tellement son geste, tellement son action est incroyable. La salle est silencieuse, sans voix, sans geste, sous l'effet du choc émotionnel. Et là, souvent, dans ces films-là, il y a un figurant qui se lève de son siège et qui regarde l'acteur principal et qui commence à applaudir. Et puis une deuxième personne applaudit, une troisième, et finalement la salle se lève et c'est une ovation. J'aimerais être ce figurant qui se lève pour applaudir mon Christ. Dans Braveheart, pour ceux qui l'ont vu, à un moment, les Écossais sont complètement démoralisés, ils sont sur le champ de bataille, les Anglais sont 4 ou 5 fois plus nombreux. Et là, Braveheart arrive et puis il fait un discours incroyable devant sa ligne, devant sa première ligne. Et à la fin, il dit, mais qui est avec moi? Et là, un silence de mort. Il y a un guerrier avec sa fourche ou son épée mal aiguisée Il fait un pas et qui dit, moi je suis avec toi. Et bref, Harpe le remercie. Et un deuxième, moi aussi je viens. Un troisième, un quatrième. Et toute l'armée qui était là va suivre Brave Heart. Et il va être vainqueur. J'aimerais être ce premier guerrier qui encourage les autres à suivre le Christ. Un dernier exemple de film, pour ceux qui ont vu Invictus, qui retrace le parcours de l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud, dans une période où l'unité du pays se joue, et Mandela voit dans cette occasion une opportunité de réunifier le peuple par la victoire en Coupe du Monde de rugby. Et c'est la demi-finale. L'Afrique du Sud n'est pas une très bonne équipe à l'époque. Ils arrivent quand même en demi-finale, je crois que c'est contre la France en plus. Et ils se font, mais laminés. Et pendant un temps mort, l'équipe est vraiment abattue et le capitaine, qui est joué par Matt Damon, réunit son équipe et ils se mettent en cercle et il n'arrive pas à trouver les mots. Il essaie de les encourager et puis il n'y arrive pas. Et le stade est tellement silencieux. Tout le monde est abasourdi, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font n'importe quoi. Et là, il y a un groupe de personnes, peut-être une personne, on ne le voit pas dans le film, mais on l'entend, qui commence à chanter. Chocholosa, Koulezantamba, Stimela. Vous connaissez ce chant? C'est l'hymne de l'Afrique du Sud. Il y a une personne qui commence, puis un groupe et tout le stade qui chante. Et là, Matt Damon, il n'a plus les mots. Il dit, écoutez ce peuple qui nous suit. L'Afrique du Sud va remporter la Coupe du Monde. Moi, j'aimerais être. Alors, ce figurant, on ne le voit pas, mais on l'entend. J'aimerais être ce figurant qui commence à entonner le chant pour encourager la cause de Christ. J'aimerais être ce figurant. Mais ce n'est pas moi l'acteur principal. Je ne suis qu'un figurant. Je ne suis là que pour admirer Jésus-Christ, mon acteur principal. Je ne suis là que pour l'applaudir, lui dire à quel point je l'adore et déclencher d'autres applaudissements. Il est le sujet des applaudissements, pas moi. Quand Pierre termina sa prédication le jour de la Pentecôte, il dit les choses clairement. Il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Et quand les auditeurs comprirent que Jésus était effectivement Seigneur, ils furent transpercés au cœur, nous dit le verset 37 de Actes chapitre 2. Et ils commencent à trembler et ils citent cette fameuse phrase qui est une phrase qu'on doit aussi se répéter, Ô homme frère, que ferons-nous? Et la réponse au verset 38 ne se fait pas attendre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Il l'a dit juste avant. Sachez avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Soyez baptisés dans ce nom-là pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. Et Paul, lui, est sur le même thème en Romains chapitre 10, au verset 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors je terminerai simplement par cela. En vous disant que Jésus-Christ est mon Seigneur, et j'espère qu'il est le vôtre également, et je ne veux plus désormais l'appeler Monsieur Jésus. Je veux être son serviteur, je veux être son plus grand fan, je veux l'adorer, non pas pour ce qu'il peut me donner, mais parce qu'il est mon Dieu. Je veux l'appeler Maître, je veux être le figurant qui encourage les autres à faire du bruit pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait pour tous. Je ne veux pas être cet évangile des saints égocentriques. Alors je vais arrêter de dire je. Non pas à moi, éternel, non pas à moi. Mais à ton nom donne gloire. Tu ouvres les yeux et fais voir la splendeur de ta majesté. Tu fais voir le voile déchiré et nous contemplons la gloire de Jésus, l'agneau qui a vaincu et qui est assis sur le trône. La force du grand roi. Le lion de Juda, à qui appartient la couronne pour toujours. Amen.